Alors, on a fait le pari, le parti de vous présenter un point de vue, deux points de vue engagés par rapport à un certain nombre de choses qui discutent ces notions de réussite éducative, encore une fois, comme on le fait ici, en n'ayant pas peur d'affronter un certain nombre de mots et de voir derrière ces mots ce qui peut faire controverse. Alors, nos orateurs ont un peu bouffé le temps qui était réservé à la discussion et qui est important, c'est parce qu'ils sont passionnés. Donc on va essayer quand même de discuter cette notion-là, parce que la notion sur laquelle on est, c'est vraiment au cœur du travail. Donc j'aurais envie de leur poser la question, mais je vais juste leur poser sans qu'ils y répondent. À quelles conditions le partenariat est-il possible? Et à quelles conditions on n'est pas juste dans la négation des dispositifs? Est-ce que la politique éducation prioritaire est un dispositif? Personnellement, moi je questionnerais ça, hein. Mais en tout cas, on voit bien, et on l'a vu hier, qu'il y a toujours un risque à externaliser la difficulté. Et vous avez parlé plusieurs fois, et je suis là-dessus d'accord avec vous, sur le fait que les professionnels qui travaillent dans des institutions ont des normes. J'insiste sur le mot norme, parce que le mot norme, ça vient de l'ergonomie, ça vient de l'analyse du travail. Les normes, c'est ce qu'on considère comme juste, comme manière de faire dans un travail. Et la norme, Stéphane par exemple travaille avec Sylvie Martin-Dabéto, une collègue de chez nous, sur normes éducatives des éducateurs ou des animateurs qui travaillent dans les centres sociaux ou qui travaillent dans les structures de la ville. Quelles normes ont-ils sur ce que c'est conduire une activité au centre de loisirs par rapport à quelles normes un enseignant a de conduire une activité en classe? Donc les normes éducatives, les normes pardon professionnelles, c'est quelque chose qui est un concept sur lequel je vous invite à revenir. On n'a pas le temps là, mais voilà. Donc cette question des dispositifs, vous êtes confrontés à ça toute la journée. Vous, n'hésitez pas à dire là comment vous discutez ce qui s'exprime là. À quel moment le dispositif est un empêchement, une externalisation du problème et qui fait que l'institution qui devrait être responsable finalement perd le sens de sa tâche. Assez bien dans le PRE parce qu'ils font des ateliers de langage, dit le directeur d'école. Et vous, en quoi ces questions du partenariat, elles impactent votre propre travail? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme obstacle, mais aussi comme solution? Je voudrais qu'on prenne le temps de cette discussion, indépendamment de réponses, parce qu'il y a autant d'expertise dans la salle que à la tribune, mais comme tout ce qu'on a fait depuis les trois jours. Mais là, on est vraiment sur le dur de votre travail aussi.
Donc, tout ce qui a été dit là a fait beaucoup écho dans ma pratique professionnelle. Je pense notamment autour de l'accompagnement scolaire. On a, il y a deux ans, initié un travail avec... Enfin, pas initié. Il se trouve que la CAF, l'Éducation nationale, et le CRI avaient un objet commun de travail. Le CRI, le Centre de ressources illettrisme, avait un objet de travail commun qui est l'accompagnement scolaire. Sur le terrain, on a été quelques-uns à se rencontrer avec l'autorisation de nos institutions respectives pour essayer de faire avancer cette réflexion et ce débat, notamment autour de la mise en œuvre de formations destinées aux intervenants. Jusque-là, c'était bien. Et puis, le CRI, qui est une association, a souhaité que tout ça, ça en revienne au niveau supérieur. Et là, on a commencé à trouver des blocages. Parce que d'un côté, l'IEN de la circonscription, chargée de l'éducation prioritaire et du PRIPI, devait aussi contacter sa collègue en charge de la maîtrise de la langue, de manière à ce qu'ils aient un discours commun en direction du DAZEN. La CAF, de son côté, il a fallu en référer aux services. Et là, les services de la CAF ont commencé eux aussi à bloquer, parce que l'objet commun de travail que nous avions, nous, acteurs de terrain, n'était pas forcément perçu comme une priorité dans l'institution CAF, pas forcément perçu comme une priorité dans l'institution éducation nationale. Et quant aux partenaires CRI, eh bien, le conseil d'administration, ou plus exactement le bureau de l'association, là aussi, qui avait une mission confiée dans le cadre du PRIPI, a craint que cette mission ne puisse être remise en cause ou questionnée par le travail que nous, acteurs de terrain, conduisions. Et du coup, on se retrouve 2 ans après avec une action qui a pu être mise en œuvre il y a 2 ans, mais qui a été complètement mise à mal, stérilisée par nos institutions respectives, sans que l'une ou l'autre ait une responsabilité particulière, mais pour des raisons différentes, toutes les trois ont eu cette même réaction de blocage.
On peut juste quand même réagir par rapport à ça. On a conduit cette année, dans la suite d'un travail qu'on fait depuis quelques années au Centre Alain Savary sur les questions du partenariat, un boulot avec le niveau de direction des services départementaux, régionaux et académiques sur ces questions de partenariat. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ce qui se jouait au niveau du terrain, c'est-à-dire les acteurs de terrain, les techniciens, les coordonnateurs qui instauraient du travail partagé entre les institutions, se rejouaient aussi sur les niveaux institutionnels, au niveau départemental, académique, régional, entre techniciens. Et ce qui était très compliqué, c'était de légitimer ce travail-là pour que les pilotes de ces différentes institutions donne une légitimation et acte ce travail-là. Et même quand ce travail-là arrivait à se faire entre techniciens et qu'il était légitimé à ces niveaux institutionnels, il n'arrivait pas à faire le lien avec l'étage terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien un échelon de communication et de travail qui manque et qui n'est pas organisé. Voilà.
Moi, je vais poser une question en tant que chef d'établissement, peut-être un petit peu dans la provocation, mais c'est vrai que pour avoir travaillé sur plusieurs territoires qui ne fonctionnent pas tous de la même façon, parce que il faut pas oublier la dimension politique des territoires. Pour avoir conduit des actions en partenariat avec des centres sociaux, enfin il y a plein de choses qui sont effectivement qui marchent bien, mais ces derniers temps j'ai l'impression que souvent l'éducation nationale est au centre d'une telle préoccupation et qu'on cherche des fois à nous instrumentaliser ou effectivement à récupérer un certain nombre de nos missions, à s'en emparer. Et c'est vrai que là je suis sur la ville de Lyon, hein, et je doute des fois là en zone, en plus avec les ZSP on est très très sollicité, et il y a des fois je doute un peu, j'ai des fois l'impression que recentrons-nous aussi vraiment sur le cœur de notre métier et ne laissons plus tous les actes, enfin certaines associations s'emparer de ce que nous avons à faire. Voilà, mais bon.
Très clairement, hein, la question, mais ça a été dit, vous allez le redire, mais la question de dire travailler en partenariat, c'est déjà définir les cœurs de mission de chacun. Et il y a bien des gens qui, étant des métiers émergents, sont prêts à dire aux vieilles institutions, mais rassurez-vous, on va s'occuper de tout ce que vous savez pas faire.
Peut-être que moi c'est un peu comme ça que je concevais mon travail de coordonnateur, mais à un moment donné, dans les questions de relations entre institutions, il y a besoin de réaffirmer, mais aussi de traduire pour les autres ce qui relève de notre responsabilité, ce sur quoi on a avancé aussi. Et réaffirmer le sens du cœur de métier de l'éducation nationale, entre guillemets. Mais à un moment donné, il faut aussi, dans les questions de partenariat, et à mon avis, elles ne peuvent fonctionner correctement que si on reste ferme aussi sur ce à quoi on a à agir et qu'on ne va pas déléguer. Mais il y a besoin de le retraduire à différents endroits pour le réaffirmer. Et effectivement, sur toutes ces questions d'éducation, et puis surtout en ce moment, hein, avec toutes ces reconfigurations, il y a besoin aussi de, de, de pas se laisser envahir effectivement par une certaine politisation et à sortir ces enjeux d'éducation, de revendications politiques, de oui, nous, municipalités, on veut montrer que nous aussi, bon, oui, d'accord, mais sur quoi ?
Moi, je voudrais revenir sur la distinction dispositif-programme, dans le sens où le dispositif n'est pas un programme qui n'est pas reconnu par tous. Je pense entre autres à l'accompagnement éducatif qui est presque à l'heure pour les familles, parce qu'ils s'imaginent que leurs enfants vont dans les associations faire de l'aide aux devoirs, alors que généralement, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les associations travaillent sur le culturel, sur le sportif, et c'est vraiment à l'heure pour les familles qui ne comprennent pas que leurs enfants ne réussissent pas parce qu'ils les envoient dans les associations pour faire de l'aide aux devoirs et que c'est pas du tout l'objectif. Donc là, vraiment, le dispositif, il n'est pas un programme, effectivement, parce qu'il n'est pas reconnu par tous. L'objectif n'est pas reconnu par tous. C'était...
Sur cette question de l'accompagnement à la scolarité, moi, il me semble qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été amenées par un certain nombre de chercheurs, et je pense à une chercheuse qui s'appelle Séverine Cacpo, qui est intervenue plusieurs fois ici pour présenter son travail, et qui a été enquêtée d'abord dans les familles sur ce qui se passait autour des devoirs à la maison dans les familles. Mais elle a sorti récemment un article qui me semble très très intéressant, qui montre aussi, ils ont été enquêtés dans les lieux d'aide aux devoirs encadrés par des enseignants. Et ils se sont rendus compte que, y compris dans ces lieux-là, l'aide aux devoirs ne fonctionnait pas, n'était pas efficace. Il me semble que là, derrière, il y a plein de choses qu'on a à réfléchir et à re-questionner sur le sens de ces lieux et de à quoi ils servent.
On crée des partenariats selon les années, selon les classes que l'on a, avec la mairie, avec le conseil général, et c'est sur notre temps. Et avec la réforme, il y a justement ce temps que l'on peut utiliser, cette pondération. Mais pour l'instant, en tous les cas, je ne l'ai pas entendu, c'est pas pris en compte ou en considération ce temps de préparation des projets que l'on va mener avec nos élèves. C'est pas un temps qui est institué. Alors effectivement, il y a une redéfinition du métier, de notre cœur de métier, de nos missions. Je l'ai pas vu apparaître dedans, et il me semble pourtant que la pédagogie de projet, enfin, créer des partenariats avec du coup des professionnels différents qui ont des compétences différentes des nôtres, nous permet de travailler avec, et du coup de mettre en évidence différentes compétences pour les élèves. Et ça, ce temps-là, il est pas institué dans la réforme de l'éducation prioritaire. En tous les cas, il est pas pris en compte dans la pondération. On ne sait pas comment il va être mis en place. Du coup, chaque REP+ va devoir imaginer, inventer. Mais en tous les cas, ce temps-là n'est pas prévu.
Alors, je voulais dire, donc, je suis principale de collège à Villefranche-sur-Saône. J'ai été tout à fait en phase avec ce que j'ai entendu ce matin, car ça m'a vraiment parlé. À Villefranche, nous avons de nombreux partenariats avec la ville, avec des dispositifs tels que le PRÉ, le CIAS, le CLSPD. Et je suis tout à fait d'accord quand vous dites que ces dispositifs sont là pour soulager, on va dire, l'institution qu'est le collège. Alors que je reste persuadée que si l'on prend le traitement de la difficulté scolaire, il serait beaucoup mieux que cette difficulté puisse être traitée dans la classe, alors que dans mon collège, il existe un relais interne. Donc à un moment, déjà dans la classe, quand l'élève dérange ou estime qu'il a besoin, on le sort. Moi, je reste persuadée que s'il était possible que cette difficulté puisse être traitée dans la classe, ce serait mieux. De la même manière, tout ce que l'on délègue à ces dispositifs, à nos partenaires, et ça nous soulage, ils existent, tant mieux. Dans mon collège, justement, nous établissons des échanges avec eux pour que ça se passe au mieux. Je prendrai, par exemple, alors on le fait pour l'aide aux devoirs dans les quartiers. Quand les mesures de responsabilisation se sont mises en place, les mesures de responsabilisation, c'est, on va dire, ça fait partie des sanctions pour éviter une exclusion d'élèves. Le CIAS s'en est emparé à notre plus grand bonheur, puisque c'était quelque chose, du coup, on pouvait se dispenser de faire. Donc si je prends cet exemple de la mesure de responsabilisation, les élèves sont accueillis dans une structure externalisée le mercredi après-midi par des personnes avec qui nous avons d'excellentes relations. En général, disons que cette mesure de responsabilisation a été actée par tous les conseils d'administration de tous les collèges de la ville. Donc régulièrement, le mercredi après-midi, ce dispositif accueille 1, 2, 3 élèves. En général, alors il y a une évaluation, en général, l'évaluation est bonne. Maintenant, au demeurant, qu'est-ce que ça a apporté quand l'élève revient dans l'institution? Pas grand-chose. Donc, ils ont le mérite d'exister, ces partenariats, on travaille énormément avec eux. La plus-value, qu'est-ce que ça apporte à l'institution? Véritablement, je m'interroge.
Merci. Sauf à ce qu'il y ait une dernière intervention, on va essayer de vous demander de conclure pour ne pas perdre nos bonnes habitudes. J'ai mis sur l'écran, sur le site du Centre Alain Savary, le rapport dont parle Stéphane, qui est un travail assez important, qui est en téléchargement, enfin important au sens, pas volumineux, mais au sens... ce travail se poursuit et le groupe avec lequel travaille Stéphane continue à produire de l'intelligence collective sur cette question. Simplement, Stéphane, une des conclusions que moi je lis dans ce rapport, c'est de dire, finalement, le partenariat fonctionne quand on arrive à trouver un objet, par exemple les devoirs, et qu'on arrive à s'expliquer au sens... chacun s'explique au sens, s'oblige à élucider ce qu'il pense lui-même de la question. Et sur des questions comme les devoirs, tout ça est controversé, hein. Tous les profs ne pensent pas la même chose. Mais c'est à partir du moment où on s'explique sur un objet que du coup, le sens du travail collectif peut jouer. Est-ce que tu serais d'accord avec ma façon? Madame, vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi, je vous avais pas vu.
Non, mais je ne vous avais pas demandé encore. Non, mais parce que je suis coordinatrice d'un programme de réussite éducative. Ouais. Je me sens un peu seule. Mais bon, je fais ça depuis un moment, un certain nombre d'années. Donc, tout ce que vous avez évoqué nous parle, effectivement, la possibilité de mobiliser au niveau du terrain, mais le fait que ça coince très vite dès qu'on atteint le niveau des directions, des services, et bon... Et quand on s'interroge plus loin sur le niveau des institutions. Alors, moi, je ne sais pas la durée de vie des programmes ou des dispositifs de réussite éducative, parce que on sent bien d'abord que le nombre de quartiers prioritaires vont être définis prochainement. Donc il y avait un certain nombre de quartiers qui vont sortir de la politique de la ville, donc du coup de programmes de réussite éducative qui vont sortir. On passe de 2300 quartiers à 1300 quartiers, donc ça fait 1000 quartiers en moins, donc je pense qu'il y aura des modifications. Je pense aussi qu'il y aura des redéfinitions de ce à quoi ça sert, parce que quand on regarde, on n'a pas dit à quoi ça servait les programmes de réussite éducative. Et actuellement, on a des injonctions, nous, sur qu'est-ce que ça change au niveau des résultats scolaires. Alors, est-ce que c'est une lubie locale ou nationale? On ne sait pas encore. Hein. Alors après, donc effectivement, je me reconnais bien dans le bricolage, le terme bricolage qui a été employé au niveau du terrain. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'au bout d'un certain temps, on s'interroge sur quels sont les freins, individuellement, puisqu'on est censé prendre les enfants un par un. Qu'est-ce qui fait frein à la réussite scolaire des enfants? Parce que le terme éducatif, il ramène toujours bien à la question scolaire, quand même. Donc, c'est là qu'il faut... Donc, quand on s'interroge, on interroge toutes les institutions. Donc, l'éducation nationale, bien sûr, mais aussi le conseil général. Qu'est-ce qui fait frein? Il fait frein que, dans les quartiers difficiles, les services de protection de l'enfance, ils sont de plus en plus débordés, et que les seuils d'alerte sont de plus en plus élevés. C'est-à-dire que... Voilà. Qu'est-ce qui fait frein? Il fait frein que sur les terrains, il y a des problèmes sur la santé. Il n'y a plus d'orthophonistes qui s'installent dans les quartiers difficiles. Il n'y a plus d'accès aux soins. Il n'y a plus de centres de référence. Enfin bon, il y a des délais considérable, un an pour avoir un suivi psy au CMP. Enfin voilà. Donc on a cette fonction de gratte-poil, on dirait, hein, d'interroger toutes les institutions et d'essayer de bidouiller des solutions qui sont aussi la mise en lien des familles avec tout ce qui existe, parce que les familles que l'on touche, ce sont des familles éloignées de l'école, mais éloignées de tous les droits auxquels elles pourraient avoir accès. Donc c'est en attendant d'avoir des injonctions plus précises, on fait ça, et c'est un travail gigantesque.
Alors j'ai envie de répondre là-dessus. Qu'on bricole des pansements, comme tu dis, c'est une chose, mais ce dont tu parles, rester un gratte-poil pour les institutions, ça me semble être une des fonctions fondamentales et qui, si elle se perd, je pense que la réussite éducative s'y perdra aussi.
Non, mais ça fait pas plaisir à tout le monde. Et alors, au niveau, j'aime bien l'histoire des trois niveaux. Au niveau du terrain, des enseignants savent à quel moment ils peuvent compter sur nous, à quel moment on peut être complémentaire. On ne peut pas être complémentaire tout seul. Mais à quel moment on peut être complémentaire. Après, ça interroge tellement les institutions et ça les met tellement en difficulté que ça coince tout de suite au-dessus. Mais ça ne fait rien. Personne ne regarde ce qu'on fait, donc on a encore une liberté.
Moi, j'avais envie de rebondir sur l'intervention de madame qui disait, je caricature, le partenariat, c'est pas toujours très utile, et se recentrer sur ce qui se passe dans nos institutions, c'est important. Et quelque part, vous parliez aussi d'une certaine concurrence de l'extérieur par rapport aux missions de l'école. C'est surtout pour m'appuyer sur votre intervention. Il faut pas qu'on oublie, nous tous acteurs au niveau du terrain, que nous aussi on est pris dans les évolutions de la société, et notamment la crise de l'emploi. Et que tout le monde a besoin de bouffer, tout le monde cherche du boulot, et que ça aussi, ça joue. Il y a énormément de choses qui rendent compliquées les affaires interpersonnelles avant que ce soit interinstitutionnel sur le terrain. C'est-à-dire, quand on a des animateurs ou des gens de centres sociaux ou des cordeaux qui sont contractuels dans les collectivités, etc., ils sont comme les titulaires de la fonction publique de l'éducation nationale. Eux aussi, ils ont besoin de manger, et eux aussi, ils cherchent à travailler. Donc, il y a à la fois un regard péjoratif quand on parle de concurrence, mais il ne faut pas qu'on oublie que derrière ce qu'on peut lire en tant qu'institution, il y a aussi des choses interpersonnelles qu'il y a besoin d'analyser dans les relations entre les gens. Toujours entre les acteurs de terrain, moi j'ai beaucoup travaillé sur toutes les interactions entre les professionnels dans le cadre de la réussite éducative. Donc il y a l'histoire des normes dont vous avez parlé, et des normes professionnelles de chacun des groupes professionnels qui est sacrément important. Il y a un autre écueil qu'on voit beaucoup moins, mais qui me semble très très important, c'est le décalage générationnel entre les gens qui gèrent les partenariats dans des différentes institutions sur le terrain. En gros et en clair, ceux qui viennent des collectivités locales, bien souvent ce sont des jeunes qu'on a mis là parce que c'est des emplois émergents, qu'on a mis des fois sur des emplois aidés, précaires, débutants, etc. Alors que ceux de l'éducation nationale qui viennent régler les histoires de partenariat, c'est plutôt des ténors, c'est-à-dire des principaux de collège, des cordeaux de REP, qui sont en deuxième partie de carrière, à qui on va pas la faire la réunion et comment ça se passe, c'est des jeux de partenaires autour de la table. Et là, on a des décalages qui sont au-delà des missions de chacun, qui sont de l'ordre de la génération, et qui a vraiment besoin de lire en tant que décalage générationnel aussi, pour comprendre ce qui se passe dans les jeux d'acteurs. Oui, mais il y a aussi un décalage générationnel. On l'a beaucoup vu dans le cadre de la réussite éducative, un peu moins maintenant, mais au début où elle est arrivée, on avait des professionnels qui étaient très très jeunes sur la réussite éducative, et qui venaient discuter avec... entre guillemets, les vieux briscards de l'éducation nationale. Et là, il y a de fait un décalage au-delà des missions de chacun.
Donc moi, je suis en lycée professionnel à Vaux-en-Velin. Avant, j'étais à Vénissieux, donc je connais pas mal ça. Les dispositifs, on sait les faire, on sait travailler avec les partenaires horizontalement, verticalement. Je suis d'accord avec vous, il y a des blocages. Souvent, c'est juste à cause de personnes, ça peut être aussi le politique, etc. Et il me semble qu'on oublie quelque chose, c'est les familles. Parce que pour moi, éducation prioritaire, il y a éducation, et nous on les a de 8h à 17h, mais le reste du temps, ils sont pas avec nous. Et je vois, j'écoute les vieux briscards, j'écoute les jeunes, et on a de plus en plus de difficultés, nous, c'est d'avoir un lien avec les familles, de travailler avec elles. Moi, j'ai essayé un dispositif, là, dans notre lycée, d'aide à la parentalité, pour essayer d'aider les parents qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus faire. Parce que quand on arrive à les recevoir, c'est ce qu'ils nous disent au bout d'un moment. Occupez-vous de lui, moi j'en peux plus, je sais plus faire, je baisse les bras, etc. On a tout essayé, à l'intérieur du lycée, à l'extérieur, avec des psychologues, un lieu écoute à Vaux-en-Velin qui fonctionne bien. Et on a vraiment du mal à les avoir. Donc les réformes, tout ça, je suis pas trop vieux, mais j'en ai déjà vu passer. Le ministre dans son bureau, etc., d'accord, mais il me manque toujours quelque chose, moi, c'est avec les familles, quoi. Comment on peut travailler avec elles? Il n'y a pas de normes établies, c'est pas une institution. On peut pas leur faire la morale tout le temps, déjà on n'arrive pas à leur parler, et moi je pense que notre gros souci, il est là, c'est l'éducation en dehors, comment ça se passe, comment ça se fait. Moi je vis à Vaux-en-Velin, je vois où sont les gamins le soir, etc., le matin, ce qui se passe. Je sais pas, tant qu'il n'y a pas des choses qui sont faites en ce sens-là. Ma seule relation sûre avec les familles, c'est donner le certificat de scolarité pour les bourses. Je suis obligé de le dire, c'est ça. C'est le seul moment où je vais les voir, où je suis sûr d'avoir tout le monde, etc.
Juste sur la question de la relation aux familles, on a parlé de ces normes. Il me semble qu'un des problèmes qu'on a à traiter dans la relation aux familles, c'est comment les normes scolaires, à un moment donné, délégitiment les normes éducatives des familles. Et tant qu'on ne se posera pas cette question-là, dans notre mode de relation avec les familles, un certain nombre de familles, notamment de milieux populaires, se tiendront, à mon avis, éloignées de l'école. Une dernière chose, tu parles des cordeaux qui travaillent entre eux. Il me semble aussi important qu'à un moment donné, sur un territoire, les différents responsables de l'éducation nationale, peut-être avec les cordeaux, se retrouvent régulièrement pour essayer de travailler aussi ensemble, avant d'aller travailler aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire.